Laudetur Jesus Christus.
Un nouveau sommet en aide à l'Ukraine ce jeudi à Paris, sous l'impulsion de la France et du Royaume-Uni. Il s'agit d'afficher des garanties de sécurité à Kiev à l'heure où l'idée d'un cessez-le-feu avec la Russie est avancée par les Américains. Un sommet qui se tient alors que l'augmentation des budgets de défense est au cœur des débats européens. Illustration en Espagne au début de ce journal. Autre sommet à Paris ce jeudi et demain, une rencontre internationale pour lutter contre la malnutrition. Illustration à suivre avec un reportage à Madagascar dans le sud de l'île, touché par la famine. Dans ce journal également, le Pakistan qui annonce le renvoi d'1 million de réfugiés afghans de son sol. Nous entendrons notre correspondant régional. Et puis direction le Canada où se poursuit la campagne aux élections législatives du 28 avril. Nous reviendrons sur une conséquence inattendue de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Plus d'indépendance et de souveraineté économique.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, un nouveau sommet de soutien à l'Ukraine s'est ouvert à la mi-journée à Paris, à l'Élysée, sommet en présence du président Volodymyr Zelensky et d'une trentaine de pays. Sommet pour évoquer des garanties de sécurité à Kiev en cas d'éventuel accord de paix avec la Russie. L'Europe peut se défendre, nous devons le prouver, a exhorté tout à l'heure le président ukrainien à l'issue, à l'ouverture de cette conférence. Alors que la guerre est aux portes de l'Europe, la question du réarmement occupe de nombreuses chancelleries, c'est le cas en Suède. Hier où le gouvernement a annoncé vouloir augmenter son budget de défense de près de 30 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Le plus important investissement depuis la guerre froide, selon Stockholm, beaucoup plus loin du front. En Espagne également, le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé un plan national pour stimuler l'industrie de la défense dans le cadre des efforts réclamés par Bruxelles face à la menace russe et au désengagement américain. Un plan qui est néanmoins loin de faire l'unanimité. Les précisions de notre correspondant Louis Marsens.
L'Espagne est le pays de l'OTAN qui consacre le moins d'argent à son budget militaire et selon le dernier Eurobaromètre, les Espagnols sont les Européens les moins préoccupés par les questions de défense et de sécurité. C'est sans doute pour cela que le projet présenté par le gouvernement espagnol dans le cadre du plan réarmement de l'Europe n'a rien d'une évidence. Le gouvernement lancera avant l'été un grand plan national pour le développement et la promotion de la technologie et de l'industrie de sécurité et de défense espagnole, a assuré Pedro Sanchez devant les députés à Madrid. Le Premier ministre a confirmé qu'il voulait que son pays consacre d'ici 2029 à 2% de son PIB à ses dépenses militaires, mais il est resté flou sur le calendrier et on ne sait pas si ce plan sera voté par les députés. La gauche radicale qui gouverne avec les socialistes d'un côté et les partis régionaux de l'autre sont hostiles à toute augmentation du budget militaire. La semaine dernière à Bruxelles, Pedro Sanchez avait indiqué qu'il n'aimait pas le terme de réarmement de l'Europe. Depuis, la Commission préfère utiliser le terme préparation 2030. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a prononcé lui un discours hier devant l'Assemblée plénière de la Comécé. Les épiscopats européens et la guerre en Ukraine notamment a été abordée. Il est de notre devoir de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien, injustement attaqué, a-t-il dit, de l'aider dans la mesure des possibilités de chacun et d'appeler les parties belligérantes et l'ensemble de la communauté internationale à œuvrer pour une solution rapide et juste. Fin de citation. Un autre sommet s'ouvre ce jeudi à Paris et durera jusqu'à demain, une conférence internationale pour lutter contre la malnutrition. Selon l'UNICEF, plus de 180 millions d'enfants dans le monde vivent dans une situation de grave et sévère pauvreté alimentaire. Illustration à Madagascar dans un CRENI, un centre de récupération et d'éducation nationale intensif, éducation nutritionnelle intensif. Ils accueillent des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère avec complications, mais aussi leurs parents déboussolés. C'est un reportage à Créni, au CRENI de Tuléar, dans le sud de Madagascar, signé Sarah Teto.
Félix gît sur le matelas en plastique du CRENI. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts, mais le regard absent. Immobile, il n'a même plus la force de cligner les yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Ensuite, il a vomi et a eu la diarrhée. Je suis allée voir une tradipraticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors je l'ai amené à l'hôpital, il était toujours inconscient et on nous a admis ici.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmière. infirmier qui s'occupe de lui.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse d'admissions due en partie à la période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais le nombre d'enfants admis a aussi doublé par rapport à l'an dernier. L'UNICEF mène actuellement une enquête nutritionnelle pour en déterminer les causes. Et ce qui alerte encore plus, c'est l'augmentation sans cesse croissante de patients citadins comme Félix, preuve que cette pathologie ne touche plus seulement les habitants de la Brousse. À Tuléar, Sarah Teto, RFI pour Radio Vatican.
L'accord de paix signé en 2018 au Soudan du Sud a volé en éclats depuis l'arrestation hier du vice-président Riek Machar par les forces loyales au président Salva Kiir. Celui-ci, Riek Machar, a été placé en résidence surveillée. Hier, l'ONU partageait ses craintes de voir le pays retomber dans un conflit généralisé. L'IGAD, l'association panafricaine des États d'Afrique de l'Est, appelle de son côté à la retenue maximale. Le Soudan du Sud, pays où le pape François s'était rendu il y a 2 ans et avait sermonné les dirigeants, les exhortant à la réconciliation. Dans la guerre, elle fait toujours rage. Au moins 25 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures en des frappes israéliennes, selon le ministère local de la Santé. Le Hamas a annoncé ce matin la mort d'un de ses porte-parole. Israël, qui de son côté est visé par de nouveaux tirs de missiles provenant des Houthis du Yémen. Les sirènes ont retenti encore ce jeudi dans plusieurs villes de l'État hébreu. Partons désormais au Pakistan, où les autorités ont décidé de renvoyer chez eux près d'1 million d'Afghans en situation régulière et irrégulière. Islamabad leur a donné jusqu'à lundi prochain pour quitter le pays. Cette décision intervient alors que les attentats préparés depuis le territoire afghan se multiplient au Pakistan. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
Le compte à rebours touche à sa fin. Au 31 mars, tous les Afghans clandestins ou détenteurs d'une carte de résidence devront avoir quitté le Pakistan. Passé ce délai, ils seront expulsés. Plus de 800 000 personnes, certaines installées dans le pays depuis des décennies, vont être forcées à l'exode. L'ordre d'expulsion a été publié par le ministère de l'Intérieur le 7 mars. Cette décision met en danger ceux qui ont travaillé avec la coalition occidentale ou l'ancien régime et qui attendent toujours d'obtenir l'asile aux États-Unis. Ils craignent d'être assassinés dès leur retour en Afghanistan. Mais le gouvernement pakistanais est déterminé à faire pression sur les talibans afin qu'ils répriment des groupes terroristes qui profitent de leur base arrière afghane pour intensifier leurs opérations. Le nombre d'attentats a été multiplié par 2 en 3 ans au Pakistan, tuant 850 victimes l'an dernier. Le pouvoir taliban prétend n'abriter aucune organisation terroriste. En coulisses, le régime durcit sa répression envers les femmes et reste proche d'Al-Qaïda. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
C'est une nouvelle menace mise à exécution. Donald Trump avait promis de taxer les voitures venant de l'étranger. Le président américain a annoncé hier soir que dès le 2 avril, les véhicules qui ne sont pas fabriqués sur le sol américain se verront imposer 25% de tarifs douaniers. La guerre commerciale lancée tous azimuts par les États-Unis, un fort retentissement au Canada en pleine campagne pour les législatives du 28 avril. Le politologue canadien Frédéric Boily, professeur à l'Université de l'Alberta, revient sur une conséquence inattendue dans le pays de cette guerre commerciale ouverte par Washington, plus d'indépendance et de souveraineté économique.
Ce lien de confiance-là est brisé également au niveau de la population, ce qui fait en sorte qu'on a assisté à un vent de patriotisme là, presque inédit de par sa nature et de sa profondeur. Il fallait réagir nationalement, patriotiquement pour s'opposer à cette menace en provenance de Donald Trump et de son administration. Justement, avec l'électrochoc Trump, ça a fait en sorte que les responsables politiques sur le plan fédéral, mais aussi provincial, se sont dit maintenant qu'il faudrait peut-être développer davantage de liens interprovinciaux et donc abaisser complètement certaines barrières interprovinciales qui défavorisaient le commerce entre les provinces. Ça a relancé aussi le débat sur l'industrie de l'énergie, à savoir le pétrole et le gaz, pour peut-être trouver d'autres marchés d'exportation que celui des États-Unis, des marchés asiatiques ou certains marchés européens, France, Allemagne, que l'économie canadienne soit de manière générale moins dépendante de l'économie américaine.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Ainsi s'achève ce journal. L'information reviendra sur nos ondes ce soir à 18h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente après-midi.